1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Force à vous.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Bonjour, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans la toute nouvelle émission de Barthas 1, 2, 3, climat. Alors, cette émission, ben, elle va tout déchirer, hein. Je pense que là, on va éclater le sonomètre micro. Et le micro et tout ça. Alors, ben, pour animer cette émission, donc, il y a une grosse équipe, hein. On est donc 4, voilà, donc, ben...
On Thomas. A Thomas, voilà.
Thomas, voilà, on a Thomas, donc.
Et Yannick.
Et Manu.
Et Manu, et voilà. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir, donc, pour notre toute première émission, Élodie Labaume.
Bonjour.
Bonjour, Élodie, voilà. Et Sandrina Carvero, donc, bonjour, Sandrina.
Bonjour.
Voilà, qui nous viennent de Mende, tout spécialement. Elle travaille pour l'association Octea, et on va revenir longuement sur ce qu'est Octea, ce qu'elle fait Octea, et voilà. Donc, à quoi 1, 2, 3 climat, c'est quoi comme émission? Bon. Comme vous avez dû le comprendre dans le titre, c'est une émission qui est consacrée à la transition écologique. C'est une émission mensuelle. À chaque fois, nous aurons des invités. Le but de notre émission, c'est un peu d'apporter des solutions. Alors, à notre modeste niveau, évidemment, d'avoir un peu une ouverture aussi, peut-être sur ce qui se fait ailleurs, sur les solutions qui sont mises en œuvre ailleurs. Voilà, des infos générales. Il y a plusieurs séquences dans l'émission, vous allez découvrir. C'est une émission mensuelle, j'ai peut-être déjà dit, non ? Oui, je ne sais plus. Oui, j'ai déjà dit, je me répète, donc voilà.
En direct.
En direct, donc, voilà. Et elle sera rediffusée deux fois dans le mois, je crois.
Ouais, en tout cas, quatre diffusions dans le mois, ouais.
Voilà, quatre diffusions dans le mois. Et puis, c'est une émission à laquelle vous pouvez réagir, évidemment, sur le mail de Radio Barthas, hein, je le redonnerai tout à l'heure, et puis aussi peut-être en venant nous voir en fonction du thème choisi, vous signaler si vous avez vraiment des choses à nous dire, si vous voulez témoigner et participer à cette émission, il n'y a aucun problème, les ondes de Radio Barthas sont ouvertes. Voilà.
Climat constat.
Est-ce que c'est le bon ? C'est climat constat, là ?
Oui, c'est bien le bon. Alors, on se rôde un peu.
Voilà, pour moi, c'est la première aussi. Donc,
oui, oui. Je vous rappelle que c'est Ben qui a la technique.
Ouais,
donc,
je préfère celle que j'ai faite sur le climat débat.
Oui, voilà.
Ce sera là le mois prochain.
Voilà, on s'en mettra peut-être en fin d'émission.
Alors, notre toute première rubrique climat constat, alors je crois que c'est Manu qui entame les choses.
Voilà, donc à moi le privilège d'ouvrir la séquence. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a bien précisé, c'est une émission qui va parler de chauffage.
J'ai dû oublier, je crois. c'est très important, oui. Merci, Manu.
Et comme c'est une question qui occupe beaucoup nos concitoyens, parce qu'il y a une facture de chauffage, mais il y a aussi des effets du chauffage, en fait, je vais commencer peut-être par présenter comment on se chauffe en Lozère. Donc pour ça, je me suis intéressé à une étude de l'INSEE, là, qui s'appelle « La Lozère aurait-elle des atouts pour résister aux crises ?» Et question chauffage, oui, bien nommé, hein, l'étude qui vient de sortir. Oui. Et donc, question chauffage, on y apprend qu'il y a une nette préférence au Lozère pour le bois et le fioul, alors que sur l'ensemble de la France, on est plutôt gaz, électricité. Alors, je vais donner quelques chiffres. Oui. Hein, oui. Donc, en Lozère, une résidence principale sur trois est chauffée au bois. Et sur le sud de Lozère, on est même un ménage sur deux, soit quatre fois plus que la moyenne française. Sur l'ensemble de la Lozère, le chauffage au fioul concerne également une résidence sur trois, alors qu'il y en a à peine un sur dix sur l'ensemble de la France. A contrario, le chauffage au gaz, lui, il concerne une résidence sur 23 en Lozère, alors que sur la France, on est presque à 40%.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment pas du tout les mêmes données. Et électricité, par contre, là, on est à peu près proche. Hein, une résidence sur quatre en Lozère, une sur trois sur l'ensemble de la France. Alors, de quel bois on chauffe, serait-on tenté de se poser comme question? Eh bien, l'ADEME nous dit qu'en incluant l'ensemble des combustibles bois, bûches, granulés, plaquettes, on totalise pour l'année 2017 en France l'équivalent de 26 millions de mètres cubes de bois plein pour le chauffage domestique.
Alors, j'ai aucune idée de c'est quoi, ce du que bois ça plein. Donne.
Non, mais c'est énorme. Enfin, ça donne en
26 équivalent de
pétrole,
cubes.
Ça fait 5,6 millions de tonnes équivalent pétrole.
D'accord.
Si on le ramène au baril.
Oui.
Alors, par souci d'économie d'énergie, on s'équipe avec des appareils de plus en plus performants. Selon une étude de l'Observatoire des énergies renouvelables, on constate que les ventes de chaudières automatiques à granulés ou pelés ont doublé entre 2018 et 2019 pour atteindre 30 000 appareils vendus en 2021.
C'est assez au niveau de la France, évidemment.
Au niveau de la France, oui. Évidemment, parce que pour la Lozère, 30 000, ça ferait
plus on en a une chacun, en fait, dans chaque pièce. Une chaudière.
Une autre tendance forte qui est donnée par cet observatoire qui concerne les pompes à chaleur qui ont le vent en poupe. Carrément, leur vente progresse de 12% en France entre 2020 et 2021, dépassant le million d'unités en 2021. Donc c'est quand même très conséquent. Alors, il faut savoir que les pompes à chaleur ont un coefficient d'efficacité énergétique qui est bien meilleur que les autres appareils, 3 à 4 fois supérieur, ce qui explique aussi pourquoi cet argument, même si évidemment le coût n'est pas le même, l'efficacité n'est pas non plus toujours la même au niveau du ressenti. Et je dirais que certainement la pompe à chaleur la plus vendue aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur RR, mais pour moi le nec plus ultra en matière de pompe à chaleur, c'est quand même la géothermie. Et d'ailleurs, il me semble bien qu'il y a une crèche à Mende, hein, qui est équipée en pompe à chaleur géothermique depuis 10 ans.
Ah. Donc, je vois Sandrina qui acquiesce. Donc, oui, tu
il
connais
me semble,
ce.
Oui, oui.
Voilà, en tout cas, c'était cité comme exemple par l'ADEME.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est un exemple à suivre pour d'autres. Hein. Avant de petit oui. dernier mot, hein, parce que je veux pas
allez,
être trop long non plus.
Vas-y,
hein.
vas-y.
Donc en fait là,
c'est un quart d'heure. Vas-y.
On est donc au moment où on commence à rallumer nos poêles, nos chaudières.
C'est vrai,
là, parce que c'était aussi pour ça qu'on avait choisi ce thème-là.
Oui. Et d'ailleurs, c'est bien phasé, hein, parce que jusqu'à avant-hier, là, il n'y avait pas besoin de poêles, et là, ça y est.
Exactement.
Voilà. Alors si vous
l'avez allumé ce matin, bien, on est dans le thème.
Juste si vous n'y avez pas pensé, il faut faire son entretien annuel de l'appareil de chauffage, parce que d'abord, ça a un meilleur rendement. En plus, ça évite bien des soucis au cas de feu de cheminée. Et en plus de ça, c'est obligatoire.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Manu. Je crois que Thomas,
exactement.
Tu veux nous dire quelques mots aussi.
Moi, je vais vous parler de la consommation énergétique du chauffage. Puisque du coup, qui dit chauffage dit consommation d'énergie finale. Donc l'énergie finale, hein, c'est l'énergie qui est dédiée aux utilisateurs finaux que nous sommes. Donc le chauffage, au niveau de notre facture nationale, c'est à peu près 66% de la consommation d'énergie du pays. Donc c'est toute énergie confondue. Hein. Ça représente, si vous voulez, 282 TWh qui sont consommés uniquement pour se chauffer. Donc c'est l'équivalent de la production électrique de 70 500 éoliennes ou 47 centrales nucléaires. Si on voulait couvrir cette consommation avec juste des panneaux solaires, il faudrait recouvrir 5 billiards, soit 5 millions de milliards de mètres carrés sur le territoire. Vous m'avez bien entendu, c'est billiards, ce qui correspond en réalité à 1% de notre territoire, ce qui est beaucoup moins impressionnant
oui,
comme chiffre.
Tout à fait, oui. Oui.
Et ça paraît beaucoup plus atteignable.
C'est plus concret.
C'est ça. Actuellement, toute cette énergie qui est utilisée pour nous chauffer, elle provient majoritairement des énergies fossiles, malheureusement, hein, c'est à peu près 65%. Et on a 25% de notre production électrique aussi qui est dédiée au chauffage. Est-ce que mes chiffres sont bons?
Oui. Oui, ils sont bons. Quand même, tu as très bien préparé cette petite chronique.
Ouais, ben je vais passer la parole à Yannick.
Ouais, maintenant. Yannick, je crois que tu as aussi quelques trucs à nous dire.
C'était la suite sur le chauffage, sur la plus climat, donc l'impact carbone, donc les rejets du carbone.
Et oui, parce que tout ça, c'est pas neutre.
Pour le chauffage. Et on était sur une idée de l'impact carbone et l'évolution climatique. En fait, les émissions de CO2 sont générées essentiellement par la production et la consommation d'énergie. électricité, fuel, gaz essentiellement, hein, on l'a vu tout à l'heure.
Oui.
Le secteur du bâtiment, dont nos logements, est particulièrement émetteur parce que nous, on a tous besoin d'énergie pour nous éclairer, premièrement, et nous chauffer, et cuisiner. Il ne faut pas oublier que la cuisine est aussi très consommatrice d'énergie, tout en étant très consommateur d'eau. Mais ça, ce sera une autre émission.
C'est ça, un autre thème. Voilà. Ouais.
Pour l'empreinte carbone, qui est un calcul... ramener à les tonnes équivalent carbone, bah on va éviter tous les termes trop techniques. 70% des émissions de CO2 proviennent avant tout du transport, ensuite du chauffage et de l'alimentation. C'est 70% des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Non, 50, c'est le transport. Faut pas se faire trop d'illusions.
Oui, oui, oui.
Mais le logement est au troisième rang pour les émissions à l'échelle mondiale. Donc, se chauffer, se cuisiner et s'éclairer, d'accord, c'est le troisième rang des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Sans surprise, les chauffages les plus émetteurs sont les chaudières au fioul et au gaz. Ensuite vient l'électrique et à la fin, le bois. Pour une petite idée d'un impact carbone du chauffage domestique par mètre carré et par année, c'est jusqu'à 53 kg d'émissions pour le chauffage en fioul, 53 kg de carbone dans l'atmosphère, 3,7 pour le chauffage électrique. Et moins de 1 pour le chauffage au bois.
Oui.
Par contre, le chauffage au bois, faut pas oublier, toutes catégories confondues, que ce soit la bûche ou les pellets, qui est le gros truc actuellement, hein, émet des particules fines. Donc,
exactement,
pose d'autres difficultés. On n'est pas dans le bilan carbone et dans le réchauffement climatique, mais dans beaucoup d'endroits, comme les centres urbains ou les vallées encaissées.
C'est une forme de pollution.
C'est une pollution qui est interdite, comme le diesel, en fait, qui a le même type de particules qui émet dans l'atmosphère. C'est
comme
les particules fines. Le diesel, on l'interdit pour les particules fines. Le chauffage au bois, cheminée, bûche, c'est les particules fines qui posent des problèmes respiratoires puisque descendent jusque au fond des poumons, contrairement à d'autres particules. Donc, il y a beaucoup de difficultés aussi à laisser des chauffages dits bûches. Pour ça qu'on privilégie maintenant les chauffages type à pellets ou à granulés.
Oui.
Et pour les pellets, il faut privilégier pour les conseils. Actuellement, on a tous allumé le chauffage. Moi, je ne l'ai pas encore allumé. Mon poêle à pellets. Mais j'ai résisté. Hein. Demain, je suis chez moi toute la journée. Je pense que je vais l'allumer. Il faut privilégier ceux à 100% de résineux parce que c'est les seuls qui permettent de ne pas avoir de liant chimique et qui est garanti. Et du coup, qui ont des normes, qui ont été des certifications. Il y en a deux connues, EN+, qui est une certification européenne, et la DIN+, qui est une certification allemande, qui garantit aucun additif à l'intérieur des pellets. Donc, vous n'avez pas un ajout chimique ou d'autres choses qui permettent et qui génèrent de la pollution.
Et ça, tu crois qu'on en trouve dans le coin, là, en Lozère?
Majoritairement, ils sont tous. Moi, j'en ai jamais trouvé qui n'a été pas certifié en Lozère.
Ouais,
alors, j'en ai acheté qu'en Lozère, j'en ai pas acheté ailleurs.
Ah oui, tu vas pas en acheter à Montpellier pour les ramener
pas
là.
Trop.
Non, on sait jamais.
Après, ils sont pas forcément faits en Lozère, même si, a priori, on a une des plus grosses entreprises fournisseuses qui fait des pellets en France. Mais tu les achètes pas. On peut les acheter potentiellement, mais c'est surtout les revendeurs. Et moi, tous ceux que j'ai vus, ils sont DIN+. Donc, ils ont tous la certification et c'est que des résineux.
Bon.
Ça veut dire 100% résineux.
Oui.
L'autre chauffage, mais rapidement, hein, c'était les pompes à chaleur dont on a parlé un peu au début, qui est la nouvelle mode qu'on met beaucoup. Les pompes à chaleur, c'est un équipement purement électrique. Hein. Il faut de l'électricité quand même. Donc il y a c'est plus émetteur que le chauffage bois. Par contre, c'est la plupart qu'on met actuellement, c'est des RR. Et en fonction des évolutions climatiques, si à l'extérieur, vous avez une faible température, ça fonctionne plus. Donc, c'est plutôt considéré actuellement pour les pompes à chaleur RR comme un chauffage d'appoint.
Consomme pas mal d'électricité.
Qui consomme de l'électricité.
Ouais.
Ouais. Faut imaginer que vous installez comme une clim, donc un gros cube à l'extérieur qui peut être bruyant pour le voisinage, comme toutes les clims. Et ça entraîne actuellement, avec les milliers qui s'installent, des vrais problèmes de voisinage.
Eh bien, merci beaucoup Yannick. C'était très éclairant. Et moi, les collègues, ils m'ont laissé un sujet que je me suis dit, ça serait facile et tout. Le coût en euros, donc, du chauffage. Eh bien, finalement, c'est pas si facile que ça d'avoir, on va dire, des échelles, de savoir combien coûte tel type de chauffage et tel type de chauffage, hein, en fonctionnement à l'année, enfin, au mois. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sites internet qui parlent de prix de chauffage, mais il y a aussi beaucoup de sites internet qui sont des sites de revendeurs d'énergie. donc où tu peux obtenir de devis pour ceci, cela. Donc c'est pas simple, c'est pas toujours très objectif. Voilà, il faut croiser plein de sources pour avoir une vue quand même, on va dire objective de voilà. Alors j'ai fini, je me suis plongé dans les statistiques de l'INSEE, mais bon c'est compliqué. Hein,
c'est des voilà. gros rapports.
Alors ben. J'ai quand même réussi à avoir des données. En fait, ben, vous devez vous en douter. Hein, oui, parce que, pardon, en préambule, peut-être, je dois dire que le coût du chauffage, en fait, on prend en compte le coût de l'appareil en lui-même ou de l'installation et ensuite son coût de fonctionnement. Évidemment, le premier dans la liste, ben, c'est le poêle à bois. Alors, soit à bûche, soit à granulé. Hein, avec un coût d'achat qui est, si on parle d'installation individuelle, hein, qui est assez faible, entre 1000 et 6000 euros. Pour une maison de 100 mètres carrés, on évalue entre 800 et 1000 euros par an la consommation. Ensuite, le 2, c'est les pompes à chaleur, on en a parlé. Alors après, avec les réserves qu'on a émises, hein, c'est voilà, le coût d'installation entre 6000 et 20 000. Ça, oui, 20 000, je pense que c'est les pompes à chaleur avec de la géothermie et tout ça, les plus efficaces, mais forcément qui coûtent plus cher parce qu'il faut faire un...
Je crois qu'on a un invité qui n'est pas d'accord avec toi.
Pardon. J'ai pas vu, pardon. Élodie.
Non, aujourd'hui, pour avoir une pompe à chaleur ouais. bien dimensionnée, on va être plutôt entre 15 000, 20 000, voire même un peu plus.
D'accord.
Et géothermie, oui. ça sera beaucoup plus.
Ça sera encore plus, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a tous les frais dus au forage et tout,
ça, ouais. Géothermie, ouais. C'est bien plus.
D'accord.
Et dans nos secteurs, la géothermie, c'est pas un bon secteur.
Ah oui.
Les milieux granitiques, c'est pas.
Il faut vraiment
aller
très profond pour trouver. Oui. Ok. Alors ça, je dois dire, c'est les chiffres que j'ai là, c'est à l'échelle nationale, hein, parce que c'est trop compliqué de trouver des chiffres à l'échelle de la Lozère. Hein. Alors en troisième position, donc on a la chaudière gaz à condensation, qui est un nouveau système de chaudière. Mais je dois dire qu'on n'a plus le droit depuis 2022 d'installer dans une maison neuve une chaudière à gaz ou une chaudière au fioul. Donc comme ça,
c'est réglé.
Ça règle le problème.
Ça coûte zéro.
Voilà. on peut la remplacer quand on en a une, mais voilà, dans les installations neuves, c'est fini. Ensuite, ben, on a l'électrique. Hein, alors c'est un faible coût d'installation, ça tout le monde le sait, mais par contre on commence à grimper là, on va être à plus de 1500 euros annuels en consommation électrique. Et puis après, ben, comme on arrive à la chaudière fuel, comme je vous disais pour le gaz, ben, maintenant c'est strictement interdit, donc ceux qui en ont, ils ont quand même des coûts de fonctionnement maintenant qui sont entre 1700 et 2000 euros par an.
Et qui ne font qu'augmenter.
Et qui ne font qu'augmenter.
Comme le chauffage électrique.
Oui, voilà. Eh bien.
Après, on a, pour avoir discuté avec des chauffagistes locaux, hein, sur les poêles à granulés, ils ont des vraies difficultés, dont un qui actuellement n'en propose plus parce qu'il n'a pas de délai de livraison.
Pour les granulés.
Pour les poêles à granulés.
Pour les poêles. Pour la fabrication des poêles.
Pour la livraison des poêles, la fabrication, on ne sait pas. Mais il y a une telle demande. Il semblerait, il y a une telle demande et il est sorti Covid que, eh ben, il n'a plus de délai de livraison.
D'accord.
Donc, il ne peut pas le fournir à ses clients. L'an dernier, on a eu une explosion des coûts des granulés.
Des granulés, oui.
Mais qui était purement commercial, où ils ont stocké avant et ils ont revendu. Et cette année, on est redevenu à des coûts à peu près honnêtes.
Oui. J'ai d'ailleurs 10 sacs de granulés à vendre pas cher, si vous voulez.
Pourquoi tu te chauffes comme un
Eh bien, on va écouter un peu de musique, hein. On va donc écouter.
Et on se retrouve après avec nos amis.
On se retrouve après. Midnight Wild, Bed Are Burning.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say
lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say it's fair, to pay the rent, to pay our share.
Give it back.
Interview climat.
1, 2, 3, climat.
Et bien voilà, je la découvre, alors ça me fait sourire. Donc,
merci, voilà. Belle, elle est bien.
Est-ce que c'est mission impossible de la transition énergétique et écologique? On en reparlera plus tard. Donc ben, on va donner largement la parole maintenant à nos deux invités. Hein. Alors, pour commencer, donc, Octea. Alors Octea... C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui commence, Elodie alors?
Allez. Octea, ça veut dire Occitanie, territoire, habitat.
Bah, et c'est simple hein, en fait. Voilà. Ouais.
C'est une association qui accompagne les collectivités dans leur politique habitat et également les particuliers dans l'amélioration de leur logement. Et nous avons une antenne à Mende où nous sommes 6.
D'accord, oui. Et donc, c'est un fonctionnement associatif. Donc, j'imagine qu'il y a un conseil d'administration donc, qui sont... c'est quoi, des élus, des chauffagistes, des...
Ouais. Oui, il y a majoritairement des élus, des puis élus, ouais. Des représentants de plusieurs structures.
Oui, d'accord. Et comment vous êtes... comment vous arrivez à vivre, en fait, c'est... Vous êtes financé par... C'est des financements publics, c'est...
Alors non, on a aucune subvention de fonctionnement.
Oui.
On vit uniquement grâce au marché qu'on obtient, des appels d'offres des collectivités.
D'accord, qui vous consulte pour voilà, avoir des...
En qui tant lance conseil. Des marchés pour aider les particuliers, ils financent, et du coup, nous, on répond à ces marchés, et on vit grâce à ça, mais on n'a pas de subvention.
D'accord, ok, pas de subvention de fonctionnement et tout
non.
Ça. Bon, ben... Ok. Alors, si j'ai bien compris, vous vous adressez aux particuliers. Alors, en fait, ils viennent... justement, pourquoi les gens vont venir vous voir à Octea, en fait?
Ben, ils viennent nous voir quand ils ont un projet de travaux, qu'ils ont envie d'améliorer leur logement. Ils viennent nous voir pour avoir un conseil technique et bien sûr voir s'il est possible d'obtenir des aides pour faire leurs travaux.
Ah oui, c'est ça, oui. Oui. Ce sont plutôt des propriétaires donc ou des bailleurs sociaux?
Alors non, on s'adresse uniquement aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés.
Aux bailleurs privés, d'accord. Donc, des gens qui ont des appartements, et d'accord. Alors, Ma question, c'est un peu qu'est-ce qui motive les gens en fait pour venir vous voir en fait. C'est plus pour faire des économies, pour avoir un type de chauffage plus écolo.
Je pense que récemment, la majorité des gens qui viennent, c'est pour le prix de l'énergie. Ils ont vu leur facture augmenter et ils commencent à se poser la question de faut qu'on fasse quelque chose.
D'accord. Et donc vous voulez conseiller à ce niveau-là, mais enfin, je sais pas, est-ce que c'est facile de leur dire. Il va falloir investir, je ne sais pas, 20 000 euros, mais vous allez économiser tant. Vous avez des chiffres, des...
Oui, en général, du moment qu'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont quand même engagés dans la démarche. Donc nous, on fait une visite à domicile où on peut analyser le logement et on arrive à voir avec eux quels sont les points à améliorer. On commence généralement par l'isolation. Parce qu'avant de changer le mode de chauffage, c'est bien que la maison soit isolée, parce que si ce n'est pas isolé, dans tous les cas... Ça consommera beaucoup.
La première fois qu'on s'est téléphoné, je me suis dit, ah mince, oui, c'est vrai que le plus important, ça reste l'isolation, évidemment. Donc, ça, c'est bien de le rappeler. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup... Vous avez vu ces dernières années beaucoup plus de monde ou alors est-ce qu'on est sur une trajectoire, on va dire, un peu régulière
de... Non, ça a quand même bien augmenté ces dernières années.
Oui. Oui, Yannick, oui.
C'était juste une question. Oui. Moi, je suis un particulier. J'ai besoin d'un conseil sur mon chauffage ou mon évolution ou mon isolation, comment fonctionne mon bâtiment. Je peux vous appeler directement ou pas ?
Oui.
Même si ma collectivité, ma collectivité n'a pas de programme particulier.
Alors,
dans
sur toute la Lozère est couverte par un programme.
Okay. On va développer les programmes alors, oui. Ouais. Et ma question, c'était aussi de savoir un peu, les gens qui viennent vous voir, en fait, ils sont déjà sensibilisés à des nouveaux chauffages ou alors vraiment, ils n'y connaissent rien et ils viennent comme ça et...
Ben, ils suivent les effets de mode. Ouais. Souvent, ils viennent en nous disant qu'ils veulent mettre une pompe à chaleur.
Ah, la fameuse pompe à chaleur.
Voilà.
Okay.
Ou le poêle à granulés.
Mon voisin a un poêle à granulés rose, j'aimerais le changer.
Oui. Mais après, c'est à nous, en allant chez eux, de voir si c'est vraiment la solution.
D'accord.
Et par rapport, on parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui ont augmenté à cause du prix de l'énergie qui viennent vous voir. Par rapport aux nouvelles normes aussi des PE avec les appartements ou les maisons qui sont classées F ou G qui ne pourront plus être louées en 2025, j'imagine que vous avez aussi une demande qui explose.
Oui, en 2023, on a eu beaucoup de bailleurs. Avant, on n'en avait quasiment aucun. Mmh. Et en 2023, ça a été une grosse partie du travail de renseigner tous les bailleurs.
Et ça, c'est des chantiers qui aboutissent bien ? Parce que j'imagine que leur coût en termes de rénovation, c'est quand même quelque chose, quoi.
Oui. Après, on a quand même des programmes qui les aident bien. Et puis, ils n'ont pas trop le choix.
Ouais.
S'ils veulent garder leur bien...
S'ils veulent continuer à louer, il faut faire quelque chose. Donc, Manu.
Mais s'il y a un tel engouement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de moyens financiers à la clé pour satisfaire tout le monde ?
Oui, l'État met les moyens et sur 2024... Ils ont encore bien augmenté.
Bon, justement, alors, parlons de ces fameux programmes. Alors, si on peut détailler au niveau de l'échelle lausérienne, là, ce qui est en place, c'est quoi ? C'est par commune ? C'est pour le...
En fait, toutes les aides au niveau national sont les mêmes. C'est les aides de MaPrimeRénov, c'est les aides nationales. Donc ça, tout le monde peut y prétendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les départements, les collectivités mettent en place des programmes qui permettent d'accompagner les gens à l'obtention de ces aides. Donc la collectivité finance un opérateur pour aider les gens à obtenir ces aides-là.
Et en l'occurrence, l'opérateur,
c'est vous.
C'est vous.
Sur la Lozère, l'opérateur, c'est nous. Okay. Il y en a un deuxième qui s'occupe d'une petite partie dans le nord Lozère. Mais du coup, le département a un programme qui s'appelle le PIG, Programme d'intérêt général, et qui permet aux personnes les plus modestes d'être accompagnées gratuitement dans leur démarche de demande d'aide.
Oui, c'est bien, parce que j'imagine que il faut faire des dossiers. Parce que bon, MaPrimeRénov, il y a des conditions de ressources, de toute façon, ça tout le monde le sait. Et ensuite, effectivement,
alors,
il y a
sur 2024, il n'y en aura plus.
Ouh, alors là...
Plus de conditions de ressources, donc tout le monde peut vous appeler.
2024,
c'est la fête.
Voilà. 2024, tous les ménages seront éligibles, quelles que soient leurs ressources. Alors, le niveau de subvention ne sera pas le même, mais maintenant, tout le monde aura droit à quelque chose.
Sur quels critères ça va se faire alors en 2024, si ce n'est pas le revenu ?
Alors, si, il y aura toujours des tranches, de revenus, mais même la tranche de revenus la plus haute aura un pourcentage de subventionnement.
Très bien, bah, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Donc, mais vous allez être débordé en fait. C'est 12 que vous allez devoir être.
C'est ça. Peut-être.
D'accord. Et oui, donc les communes, c'est un soutien au montage de dossiers et tout ça. Et après, voilà, c'est l'État qui finance le reste.
Les collectivités participent aussi lors de ces programmes. Elles apportent également une aide directement aux particuliers.
Et alors, au niveau de, on va dire, de l'ensemble des logements lausériens, votre sentiment, c'est quoi ? C'est que il y a plutôt beaucoup de logements mal isolés, mal chauffés, où le confort est vraiment mauvais, ou par rapport à la France, on va dire ?
Pas en Lozère, pas en Lozère.
Non.
Non.
Ou alors, est-ce qu'on est plutôt bien loti et peut-être non. C'est une question trop difficile, non, je sais pas.
Non, malheureusement, à Lozère, les logements sont quand même très anciens.
Ah. Donc, chers amis propriétaires, bailleurs ou non.
On est un peu en retard sur, sur la rénovation énergétique.
Ah d'accord, ouais.
Il y a beaucoup de populations concernées par ces programmes.
Bien, allons-y alors, hein. Faut tous s'y mettre. Alors,
j'ai une question sur le versement de ces aides. Comment ça fonctionne pour un particulier qui fait appel à vous ? Il a droit à une subvention, etc. Est-ce que lui, il doit faire l'avance des travaux et ça lui est versé donc, quelque chose de pratico-pratique, quoi. Ça lui est versé plus tard par l'État, ou est-ce que c'est l'État qui prend en charge la moitié de la facture directement
Non. Alors en fait, ce qu'il faut déjà, c'est que les personnes nous contactent avant de faire leurs travaux. Si les travaux sont commencés ou ne serait-ce qu'engagés auprès de l'artisan, c'est fini.
Ouais, okay. Ça, comme toutes les subventions, c'est
voilà,
la règle
de subvention. Voilà, il ne faut rien avoir fait avant. Il faut bien attendre de recevoir son accord de subvention pour pouvoir faire ses travaux. Et effectivement, les subventions, elles sont payées, on va dire, de quelques semaines à quelques mois après la fin des travaux, puisque c'est sur présentation de la facture que nous, on peut demander à l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat, de verser les aides.
C'est donc, l'ANA qui gère les aides là ?
C'est les aides de l'ANA, en fait, tout ça. Ouais, les aides ma prime rénov',
c'est l'ANA.
Ma prime rénov', c'est l'ANA. Donc, il faut bien que les personnes puissent faire l'avance auprès des artisans de la totalité de leur facture. Après, il y a des solutions. On peut demander des avances ou des éco-prêts.
Oui, d'accord. Des éco-prêts,
les éco-prêts à taux zéro.
Oui.
Et vous, votre travail, il n'est pas facturé ? C'est la collectivité qui a répondu au programme ou vous facturez à l'individu, à la personne qui...
Alors, toutes les personnes qui rentrent dans le cadre du PIG, donc c'est les personnes très modestes et modestes, leur accompagnement est gratuit. C'est le département qui nous finance pour les accompagner. Après, si on accompagne des personnes aux revenus supérieurs, là, il n'y a plus de programme géré par le département. Donc là, nous, on applique des frais de dossier aux personnes, mais qui sont majoritairement remboursés par l'ANA.
Dans le système, après.
Voilà. L'ANA les rembourse quand même sur un gros pourcentage. Donc,
on peut avoir une idée, par exemple, des frais de dossier qui s'appliquent ? Parce que j'imagine que les propriétaires...
Mais jusqu'à maintenant,
pour les propriétaires, il y a des frais de dossier, en fait.
On n'avait pas vraiment le cas jusqu'à maintenant, puisqu'en 2023, les aides étaient vraiment que pour les personnes modestes.
Donc, c'était
comme ça va s'ouvrir en 2024, c'est là où il va falloir réfléchir.
Les prix d'Octea vont monter, alors, avec tout le travail qu'il va y avoir.
Le conseil d'administration va devoir
voir. On va avoir des dossiers à faire pour ces personnes aux revenus supérieurs, mais on ne sera pas financé. Donc, il va falloir trouver la solution de comment les
ressources pour vous,
comment les accompagner.
Et pour tous les auditeurs qui étaient prêts à démarrer des travaux de chauffage et d'isolation juste attendez après cette 2024. Émission, voilà, attendez bien votre autorisation de l'OCTEA pour avoir les subventions.
Oui. Manu, tu voulais intervenir.
Je vais vous poser la question parce que finalement, on parle beaucoup des ménages modestes ou en difficulté, qui étaient les premiers bénéficiaires et qui finalement aujourd'hui sont considérés au même titre que les autres. Hein. Là, en fait, juste avant l'émission, j'ai vu que... l'Institut de l'économie pour le climat vient de sortir une étude qui s'appelle « La transition est-elle accessible à tous les ménages ?» Et puis finalement, ils disent que non, évidemment, parce que vous venez de le dire. Hein, les aides vont couvrir, on va dire, peut-être 50% des frais d'investissement, peut-être plus, à 70%, mais malgré tout, à la fin, il y a un reste à payer qui peut dépasser les 20, 30 ou 50 000 euros. Et pour un ménage modeste, ça peut représenter 10 ans de
consommation.
Donc ça, c'est le cas qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais du coup, sur 2024, les taux de subvention pour les personnes les plus modestes vont aller jusqu'à
augmenter.
90%.
Ok, bon.
Donc le reste à charge va vraiment être...
Bonne nouvelle. Oui, donc il y a quand même des gros efforts qui sont...
Oui, des gros efforts. Parce que, en plus, la règle des 90%. 5% de subvention, elle est exceptionnelle.
Eh ben, c'est super tout ça alors.
Et 2025, c'est 100% du coup?
Oui.
On verra.
Ou 30.
Peut-être.
Il n'y aura peut-être plus d'argent.
Il n'y aura plus de passoires.
On n'aura plus de travaux à faire. Espérons.
Mais globalement, il y a un diagnostic qui estime qu'il y a combien? Il y a 80% du logement, des logements à rénover. Il y en a 20%.
Je crois qu'on est plus près des 80%.
C'est énorme en fait.
En fait, on est tous concernés. Ouais.
Pour rappel, là, on peut plus louer un appartement à partir de quand? C'est pas
déjà aujourd'hui, on n'a plus le droit de louer un appartement qui consomme plus de 450 kWh en énergie primaire.
D'accord. Et ça, si on se réfère au classement, là,
c'est l'étiquette G, mais G, ouais. G très très loin. Mais après, à partir
en dessous du G encore.
Ouais, G très très très, très fort, et tous les G, c'est à partir du 1er janvier 2025.
Ok, donc là. Donc comment vont faire les propriétaires quand il y a un locataire qui est dans cet appartement?
En fait, tant que le locataire est présent, ça peut continuer.
D'accord.
Mais il n'a plus le droit d'augmenter les loyers.
Mmh. Ah oui, plus d'augmentation.
Les loyers sont gelés, et au départ du locataire, pour relouer, il faudra qu'il fasse les travaux.
Les travaux soient faits et tout ça.
Et ça ne s'applique pas à tout ce qui est location saisonnière, on est d'accord?
Non.
Les locations touristiques ne sont pas concernées par ça, ce qui peut être un problème, puisqu'on peut avoir la reconversion de logements
à
l'année.
C'est un peu le souci qu'il y a déjà, c'est qu'on manque énormément de logements permanents.
Oui, et en Lozère, d'autant plus, puisqu'il y a quand même une activité touristique importante.
Tout à fait. Il n'y a aucune norme qui sera appliquée sur la location saisonnière?
Pas pour l'instant.
Donc, il n'y a même pas, on va dire, que c'est les ABCG en bas de liste.
Non. Non, actuellement sur Airbnb, tu peux louer ton abri de jardin si tu veux, tant qu'il y a des clients, c'est la loi du marché.
Le chauffage est à ta charge ou alors
S'il vient en été, j'espère qu'il n'en a pas besoin.
Eh bien voilà, peut-être pour finir, donc les programmes, on en a parlé, la rénovation... Si on parle de quelques... Vous avez peut-être quelques exemples. Sur Florac, par exemple, est-ce que vous avez... Il y a eu des dossiers qui sont faits? Non, plutôt...
Si, il y en a régulièrement.
Il y en a régulièrement, oui. Donc, ça peut donner quoi, un dossier sur lequel vous avez travaillé? C'est pas que l'installation de chauffage, donc. C'est aussi... c'est une approche globale du logement, en fait.
Oui, on a toutes les isolations qui rentrent en compte, l'isolation des murs, des toits ou même des planchers bas, la VMC et le chauffage, les fenêtres, la porte d'entrée.
Ah oui, ça couvre tout. On a un appart tout neuf après alors.
Oui, on a tout le panel.
Ouais.
Il y a aussi les dossiers en fait dits travaux lourds où dans certains cas on arrive à financer tous les travaux. Donc l'électricité, la plomberie...
Ouais, ça peut aller aussi, rénovation de l'électricité.
C'est vraiment sur des logements qui sont très dégradés.
D'accord.
Ouais. Ok. Donc moi j'ai vu une annonce immobilière, une ruine à 29 000 euros, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de toit, rien du tout. Ça peut être financé à 100%.
Si c'est une maison.
C'est une maison.
Il faut que ce soit une rénovation de maison, pas une grange, par exemple.
J'ai des coups de fil, à passer.
Non, mais pas une grange.
Il faut que ce soit une maison depuis plus de 15 ans.
Ah,
les granges, les...
Vu ce que tu nous en dis, ça a l'air d'avoir plus de 15
ans.
Les
fermes,
en tout cas.
Je pense que le propriétaire n'est plus là depuis.
Typiquement, ce qu'on peut avoir par ici, c'est des ruines. Moi, je parle de tas de pierres, mais qui ont été des maisons pendant 200 ans, qui ne le sont plus depuis 50.
Tu veux dire même sans toit.
Mais c'est une maison.
Si elle est comme une maison, au niveau des impôts, du cadastre, tout ça, c'est bon.
Ok. Voilà. Donc même nos vieilles ruines là, qui traînent de partout dans notre secteur, ça peut passer.
On en fait.
Ça, c'est bon à savoir, ça. Ah. Non, je vais passer des coups de fil demain aux agences.
Oui, d'accord.
Il y a Octéa juste après.
Les prix vont baisser.
Non, ils vont monter.
Et le prix de la ruine va augmenter. Vu que... Eh bien, je ne sais pas, des choses à rajouter, messieurs.
Oui, je crois que c'est une petite interview musicale, là, tout de suite.
Peut-être nos permanences.
Oui, effectivement. Bon, allez, on écoute un peu de musique, alors. Donc, on écoute Effondrement, de Younes, ça vous va?
Exactement.
Très bien. Et puis après, on rentrera dans le vraiment très concret.
Oh là 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 là, c'est terrible ce qui est en train de se passer, c'est terrible. L'effondrement, Alex Rox à la prod, Younes au piano.
Alex, my man.
On veut
veut bien sauver la planète, mais on veut percer d'abord. On veut s'en mettre plein les pockets, ouais qu'on se mette bien d'accord. J'ai hâte de voir nos teutés quand l'argent ne vaudra plus rien. Quand tout se sera effondré, peut-être qu'on redeviendra humain. Fuck les baleines, la 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 la. J'aime trop le saumon, la 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 la. Paris-Bruxelles, la 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 la. J'ai pris l'avion, la 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 la. Fuck les baleines, la 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 la. J'aime trop le saumon, la 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 la. Paris-Bruxelles, la 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 la. J'ai pris l'avion, la 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 la. Je veux juste un yacht et la meuf qui va avec,
celle qui va avec le yacht.
Elle ou une autre tant que la plastique est impec. C'est pas mon dos si mes baskets sont faites par des petits namés.
Chacun ses problèmes.
La planète va très très bien, c'est juste nous qui sommes dans la merde.
Qui sommes dans la merde.
Wesh, qu'est-ce qu'il fout là lui? Putain, on avait dit pas pour ce clip.
Ok, je vais retourner.
Et action! Nous sommes dans la merde.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Je veux juste baraque sur la mer, la villa. Le jet avec le chauffeur, le pilote. Ça m'arrange qu'on réchauffe l'air, ça m'arrange. Je paierai moins cher le chauffage, bénef. Je veux juste faire mon safari. Moi aussi, je veux être heureux. Si on meurt tous, ça fait rien. On veut bien sauver la planète, mais on veut percer d'abord. On veut s'en mettre plein les pockets, ouais qu'on se mette bien d'accord. J'ai hâte de voir nos teutés quand l'argent ne vaudra plus rien. Quand tout se sera effondré, peut-être qu'on redeviendra humain. Les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Fuck les baleines,
la 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 la.
J'aime trop le saumon,
la 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 la.
Paris-Bruxelles,
la 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 la.
J'ai pris l'avion,
la 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 la.
Greta elle casse trop l'ambiance. Si la banquise fout on s'en fout. Nous, on vit en France.
En France nous vivons.
Ça fera plus d'eau dans la mer pour les vacances.
Plouf.
Et les ours polaires ils savent nager la chance.
Ouf.
Traîne pas dehors si je pars à la chasse.
Touché.
On sauve pas le monde en faisant du tri,
non, non, non.
Les écolos ils sont déprimants,
ouais.
La viande c'est plein de nutriments,
mm-hmm.
Moi aussi je veux faire du traîneau. Mes petits enfants je les connais pas. Je vais quand même pas me battre pour eux. L'effondrement etc. Pour moi c'est pour les peureux. Fuck les baleines,
la, 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 la.
J'aime trop le saumon,
la, 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 la.
Paris-Bruxelles,
la, 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 la.
J'ai pris l'avion,
la, 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 la.
Fuck les baleines,
la, 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 la.
J'aime trop le saumon,
la, 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 la.
Paris-Bruxelles,
la, 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 la.
J'ai pris l'avion.
La 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 la.
Oh la 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 la. C'est terrible ce qui vient de se passer. C'est terrible. Alex Rock à la pro. Younes au piano. Les
Et bien voilà, on reprend notre émission. Et alors pendant la musique, on discutait un peu avec Sandrina et Lottie. Et on a parlé de l'avenue Monestier alors. Donc là, dans l'avenue Monestier, vous avez fait beaucoup de choses. Alors à Florac donc. Hein.
Oui, il y a eu pas mal de projets sur toute l'avenue, dont beaucoup de propriétaires occupants.
Bon ben voilà, donc il faut continuer.
Ça marche.
Ça marche, hein. Non, mais c'est bien. Alors où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc à Florac je crois.
Alors nous on tient des permanences en fait sur toute la Lozère. Et à Florac on est tous les quatrièmes mercredis du mois. Donc de 9h à 11h30 à la maison France Service. Si je ne dis pas de bêtises.
Place Paul Comte.
Voilà.
Oui. À l'ancien local des pompiers là.
Exactement. Mmh. Donc c'est avec ou sans rendez-vous. Le mieux, c'est de nous passer un coup de fil et de bloquer un créneau, parce que des fois, il y a du monde.
Oui, il y a un seul téléphone, c'est celui de demande, de toute façon, pour tous les rendez-vous et tout ça. Hein.
Ouais. Oui, oui. Et après, on a d'autres permanences. On en a une à Saint-Étienne-Vallée-Française, tous les quatrièmes mardis du mois, donc de 10h à 11h30, à la mairie. Et une au Collet d'Aise, le deuxième mardi du mois, donc de 10h à 11h30, à la mairie également.
Et très bien. Nous, on mettra ça sur le site internet de Radio Bartas pour ceux qui veulent voilà, retrouver les horaires. J'imagine que bah, y a un site internet à Octea. Enfin oui, c'est pas que j'imagine, c'est que je l'ai vu. Donc,
c'est comme ça que tu les as trouvés.
Voilà. Ouais. Oui, il y a des infos sur le, justement le plan d'intérêt général et tout ça. On peut peut-être donner le téléphone d'Octea.
Oui, donc notre numéro de téléphone, c'est le 04 66 31 13 33. Et nos bureaux, donc, ils sont situés à Mende, 8 rue Charles Morel, au rez-de-chaussée de la résidence L'Aurore.
Oui, de toute façon, on peut aussi aller vous voir à Mende, en fait.
Exactement.
Même si on est à Florac, et on peut aussi prendre rendez-vous à Mende. Eh bien, voilà, mes amis, vous avez encore des choses à demander, profitons-en, parce qu'après, s'en vont, alors voilà.
Alors, on a appris plein de choses. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc je suis très heureux. C'est
vrai. Et moi, j'ai plein d'idées pour retaper des ruines.
Ouais, j'en connais quelques-unes aussi, pas chères.
Eh bien, on va encore écouter un petit coup de musique, là. Ça sera Super Tramp, ce coup-ci, Vegetable Man.
Joyfully, oh, playfully, watching me.
Eh bien, c'est Thomas maintenant qui va nous faire sa petite chronique climat. À toi, Thomas.
À moi, les chroniques climat. Alors, c'est un petit concentré de tips de sobriété, de low-tech. Donc, les low-tech, c'est les technologies lentes pour ceux qui n'aiment pas du tout l'usage de l'anglais. Et c'est aussi les nouvelles techniques ou technologies pour réduire notre impact en réduisant nos usages ou en optimisant nos consommations d'énergie. Donc, je vais parler à la fois d'économie, sobriété et de nouvelles technologies, la vérité étant certainement entre les deux. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, pour commencer avec les éléments de sobriété, donc ce qui ressort le plus souvent en sobriété quand on parle de chauffage, c'est qu'il est plus efficace de chauffer les personnes que les lieux. C'est pour ça que Bruno Le Maire, quand il nous recommande de porter des cols roulés, il n'est pas complètement hors sol, pas encore. Mettre nos plus beaux cols roulés, c'est bien. Dans le même ressort, vous avez ce qu'on appelle un kotatsu, qui est une table japonaise. C'est quelque chose qui a été inventé au 14e siècle, qui est vraiment une vieille solution. En gros, vous avez un foyer qui est sous une table. Cette table est recouverte par une énorme couette. Et ça vous permet de créer un îlot de chaleur chez vous. Alors aujourd'hui... Non, la couette en fait vous recouvre, c'est une table mi-basse, hein, c'est vous êtes assis dessous cette table, les genoux en dessous, et en fait la couette elle va garder vraiment la chaleur dessous.
Elle maintient la chaleur, ça doit être bien ça.
C'est pas mal, aujourd'hui on n'utilise plus un foyer creusé dans le sol avec du feu, hein, c'est vrai. En termes de sécurité c'est pas terrible. On a plutôt des petits chauffages électriques en dessous, mais qui sont quand même des chauffages un peu spécifiques. Le gros avantage de ça, c'est que même si vous vivez dans un logement qui est mal isolé, en fait ça permet vraiment de concentrer la chaleur en un seul point et du coup de quand même réduire votre facture d'énergie. Il y a aussi les tapis et moquettes, on n'en parle pas assez souvent, mais en fait vous avez 10% de la chaleur de votre logement qui s'évacue par le sol. Et en fait, tapis moquette, c'est une très bonne solution déjà pour limiter la consommation énergétique et la perte de chaleur. Donc la prochaine fois que votre mamie vous propose un tapis floral que vous n'aimez pas, réfléchissez-y quand même, ça fait faire des économies. Voilà,
au pied du lit.
Voilà.
Là, on le voit pas.
Et donc après, sur les solutions techniques, il y a des jolis projets d'entreprise quand même qui nous font dire que on a des choses à inventer pour être plus efficace au niveau du chauffage. Vous avez une entreprise par exemple de Troyes qui s'appelle Schaff et qui aujourd'hui fabrique des granules pour poêles à granules, mais avec du marc de café. Donc ils récoltent le marc de café auprès des restaurateurs qui sont à côté de chez eux. Chaque année, il faut savoir que c'est 230 000 tonnes de marc de café qui sont produits rien qu'en France. Et donc en fait, ils ont une solution pour le recycler, l'upcycler et en plus vous faire des économies. Faut savoir que les granules à base de marc de café, ils sont jusqu'à deux fois moins chers que les granules classiques.
Évidemment, ouais.
Ce qui est pas anodin. Ils dégagent moins de dioxyde de carbone, donc on en parlait tout à l'heure sur l'impact, ce qui est aussi un avantage. A priori, de ce que j'en ai lu, ça fait quand même un peu plus de cendres, ce qui veut dire que vous lavez, nettoyez le poêle un peu plus régulièrement. Et après, c'est surtout, il faut s'assurer que votre poêle, il est compatible, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il n'y a pas beaucoup de modèles grand public qui sont compatibles avec ce genre de choses. Il existe des adaptateurs, mais pour le moment, c'est surtout un usage industriel, un petit peu, comme genre de granule. Mais je pense que ça viendra, hein, qu'on finira par avoir des solutions pour adapter nos poêles actuelles pour accueillir ce genre de...
Pour brûler d'autres choses, voilà, que du bois.
Exactement.
Mais est-ce que ça sent le café, par contre?
Alors, a priori, quand ça brûle, ça a une petite odeur sucrée qui peut être, selon les sensibilités, agréable ou désagréable. Il y en a qui parlent de chocolat, il y en a qui parlent de noisette, il y en a qui parlent de café. Voilà, et donc deuxième petite solution technique dont je voulais vous parler, c'est une boîte qui s'appelle Estia cette fois-ci, qui fait des chauffages électriques, mais c'est pas n'importe quel type de chauffage électrique, puisqu'en fait le radiateur est un data center également. En gros, quand vous l'allumez, vous avez de la puissance de calcul qui est vendue à des entreprises qui en ont besoin, et en fait la carte qui va faire ses calculs pendant ce temps-là se met à chauffer, et vous récupérez la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale, qui vient du processus de calcul de la carte. Et en gros, ça vous permet d'être rémunéré pour allumer vos radiateurs, ce qui permet de faire de substantielles économies.
Ce radiateur, en fait, c'est un serveur qui va récupérer des données de X, Y personnes et qui est branché sur Internet. Et...
C'est ça. En fait, c'est un peu deux en un. C'est-à-dire que d'un côté, il résout les problèmes de calcul et de besoins en puissance de calcul pour les entreprises. Et de l'autre côté, eh ben, vous profitez de la chaleur que ça génère.
Et comment tu fais en été alors? Parce que du coup, le truc, il continue à chauffer en été.
Non, la puissance de calcul, elle est mise sur le réseau à lorsque tu allumes le radiateur. Quoi. Oui, c'est c'est l'avantage d'Internet, c'est que tout est interconnecté. Donc, tu n'as plus de puissance de calcul à un endroit, tu l'envoies ailleurs. Voilà, donc ça, c'est... pour les petites solutions que je vous ai présentées, n'hésitez pas à en proposer d'autres. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas proposées dans les éléments de sobriété. Il y a le chauffage solaire, tout un tas de solutions.
Un petit clin d'œil sur des solutions auxquelles on est moins habitué. Donc Manu, je crois que tu as un petit conseil de lecture pour le mois.
Eh bien oui, en préparant cette émission, je suis tombé sur des publications parfois assez étonnantes. Et donc, du coup, je me suis dit que ça valait le coup d'en profiter, d'en faire profiter surtout les passionnés d'histoire, hein, parce que j'ai tombé sur un truc qui s'appelle « Archéologie du poêle en céramique du haut Moyen-Âge à l'époque moderne ». Donc, c'est quand même assez pointu.
Oui, il y en a vraiment qui se mettent des sujets donc, quand même assez ardus.
Il y a eu un colloque
hein.
qui s'est tenu à Montbéliard en 1995, qui a réuni des chercheurs, archéologues, historiens de l'art, allemand, français, suisse, polonais, tchèque. Enfin bref, vous voyez.
Non, mais c'est vrai ou c'est une blague hein. Tout ça sur le poêle à céramique.
Tout ça sur le poêle à céramique qui a donné donc lieu à une publication qui fait des centaines de pages avec des illustrations étonnantes parce que finalement, on voit que la céramique, elle servait de bande dessinée quasiment. Donc c'est des tranches de vie qui sont racontées à travers ces outils de chauffage. À tel point d'ailleurs que. Les actes, enfin, en tout cas le colloque qui s'est tenu, a conclu que la céramique de poêle est à l'archéologie médiévale des régions qui sont impliquées, ce que le silex est aux fouilles préhistoriques quand même.
Hein ? Oui.
C'est-à-dire un objet complexe qui sert de traceur chronologique, technique, socio-économique et artistique.
J'ai trouvé ça quand même tout
assez
un
trop fort.
Très bien. Et alors, ces actes, on les trouve où alors
On mettra le lien sur le site
site internet.
C'est un livre en ligne.
Eh bien, voilà, je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Le mois prochain, vous allez nous retrouver, on va dire, vers le 20, pour une nouvelle émission. Hein. Le thème n'est pas encore défini. Comme vous voyez, on est au top de la préparation, mais vous inquiétez
ça
pas, on sera là et on aura un thème. Et ça, évidemment, cette émission-là, aujourd'hui, elle est en direct, hein, mais elle va être rediffusée. En attendant dimanche prochain, en attendant la prochaine émission, elle va être diffusée le dimanche
à
16h.
Voilà. Ben n'a toujours pas de micro, donc il peut pas.
C'est
nous
Ben
le dire.
Qui voulait intervenir, mais je me fais sa voix. Donc, merci beaucoup Ben, Léo.
Merci.
Merci.
Voilà, merci aux auditeurs.
Et puis, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir. Ah oui, donc je peux rappeler le mail de Bartas, peut-être, si on a dit des bêtises ou si vous voulez répondre à certaines choses. Donc, c'est contact@radiobartas.com.
Net.
Donc, je répète, contact, c'est au singulier, hein. contact@radiobartas.net. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée. Vous êtes toujours sur Bartas et voilà et pour la suite de la soirée.
1, 2, 3, climat. 1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Force à vous !
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Bartas 107 FM.